la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Par oui dire.
Quoi, c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art,
façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
Haute Nuit est une exposition présentée à l'ISELB, à Bruxelles. Des artistes sondent les parts d'ombre qui ont trait à notre humanité, où ils abordent des pans sombres de l'histoire contemporaine. Lisa de Vichère est la nouvelle Baumeister maître architecte de la région de Bruxelles-Capitale, portrait en marche et découverte du quartier européen dans la deuxième partie de Façon de voir. Haute Nuit, c'est une exposition ouverte à l'ISELB. Laurent Courtens, vous êtes le commissaire de cette exposition collective. Plusieurs artistes, cinq ?
Six.
Six, voilà. Alors, Haute Nuit, c'est le titre. Pourquoi Haute Nuit ?
C'est une sensation d'un temps qui est nocturne, qui est le nôtre, d'un temps obscur. Guerre en Ukraine, génocide à Gaza, l'opération américaine au Venezuela. Donc il y a ce temps de guerre, en tout cas, il y a cette dimension-là, puis les mesures austéritaires, sentiment d'inquiétude, de nuit, d'être dans une nuit. La notion de nuit convoque des tas de dimensions, elle convoque des dimensions mythiques et premières dans l'histoire humaine, elle convoque des inclinaisons artistiques qui appartiennent à l'univers artistique qu'on songe au surréalisme. D'ailleurs, Haute Nuit était le nom d'un groupement surréaliste très court.
En Belgique ?
En Belgique, absolument, en 1932. Donc il y a cette attirance pour les ombres. C'est cette mélancolie qui a été attachée, désignée aux pratiques philosophiques, spéculatives et artistiques dès le XVIe siècle. Donc il y a cette désir de nuit qui participe pleinement de l'histoire artistique aussi.
Donc la lumière, en fait, parce qu'il y a la traversée vers la lumière serait une matière en puissance dans cette exposition.
Oui, tout à fait, c'est un devenir. Enfin, c'est une vraie substance. Par exemple, le travail de Tatiana Baum qui réactive une lanterne magique, ben, il s'agit à l'appui d'une source lumineuse de faire affleurer la nuit coloniale et de la revisiter, de la réexplorer, de l'examiner. Le travail de Mohsin Rahoui, donc un artiste marocain qui travaille beaucoup sur l'univers de la mine, étant lui-même d'une famille mineure au Maroc. Il active dans une installation immersive des sources de lumière qui rendent visible une partie de la substance du charbon et de l'activité de la mine.
La lanterne magique de Tatiana Baum tente de faire toute la lumière sur la construction d'un paysage colonial. Tatiana Baum, vous avez plongé en fait dans les archives du musée Tervuren, vous en avez extrait des images, vous les avez imprimées d'une autre manière sur verre. Rappelez votre démarche.
Donc je suis partie de la lanterne magique, l'instrument colonial donc, qui a servi au début du XXe siècle comme propagande La lanterne magique, on utilisait des plaques de verre. Donc ici, c'est des plaques de verre où les photos sont tirées au bromure d'argent. Donc la technique début 20e siècle utilisée aussi à ce moment-là. Toutes les images datent du début du 20e siècle, la plus ancienne de 1888 qui va jusqu'à 1950.
Et vous les avez classées selon des catégories.
Oui, donc j'ai recréé des catégories qui ne sont pas les catégories du musée, qui sont paysage, faune-flore, population, infrastructure coloniale, exploitation des ressources et des populations.
Dans l'exposition, on voit ces images sur verre, en fait.
Oui, alors les images sont disposées dans des vitrines qui sont surélevées, donc il y a une ombre projetée qui crée aussi en fait une image assez fantomatique. Ces images sont ensuite utilisées pour des projections performance avec la lanterne magique, donc qui a été revisitée pour pouvoir projeter 5 plaques au même moment. Habituellement, c'était une ou deux plaques, déjà dès le XVIIe siècle. Ici, donc, c'est une revisite de la lanterne magique, donc qui est vraiment liée à la colonisation.
Projeter plusieurs images à la fois pour brouiller ce paysage?
Oui, pour accumuler en fait la construction du paysage colonial et donc créer un paysage du chaos.
Alors, vous mettez en lumière en brouillant les cartes?
En fait, on les voit clairement puisqu'elles sont individuelles et c'est le geste que je porte pour pouvoir en fait pas détruire, mais en tout cas amener ce que la colonisation a amené aussi au Congo, de la destruction et de la lourdeur en tout cas et de l'obscurité.
Votre installation, c'est une invitation à formuler autrement la question coloniale.
Alors, elle se situe surtout au niveau des archives, puisque c'est des archives qu'on ne voit jamais. Comme je ne voulais pas intervenir directement sur les images, ce processus me permet en fait juste des projections.
Avec une bande son.
Oui, une bande son avec le discours du roi Baudouin lors de la cérémonie d'indépendance du Congo en 1960, qui est entrecoupé avec des poésies politiques congolaises lues par Nkoli Jean Bofane, l'écrivain belgo-congolais, et Marianne Sélis, qui est artiste et qui, elle, lit des poèmes de David Diop, qui n'est pas congolais, mais que je trouvais assez pertinent, en tout cas, dans la dureté des mots, pour en fait contrebalancer avec ce discours qui est vraiment insupportable.
Et Tatiana Baume, dans votre installation, on marche sur les grains de café.
Oui, toujours lié à l'appropriation du territoire, la surproduction pour l'importation, en tout cas s'approprier un pays et exploiter tout ce qui était possible d'exploiter.
La construction d'un paysage colonial, une projection performance par Tatiana Baume, à vivre donc à l'ISELP dans le cadre de cette exposition Haute Nuit. On pourrait peut-être retourner dans la salle et entendre cet environnement sonore également, d'accord ?
Oui, ok.
Dorénavant, la Belgique et le Congo se trouvent côte à côte comme deux États souverains, mais liés par l'amitié et décidés à s'entraider. Aussi, nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux.
Il y a le phrasé du roi Baudouin comme une incantation, en fait.
Oui, mais c'est pire que ça. Il promeut Léopold, la civilisation qui a été amenée, et donc c'est... C'est vraiment un discours qui est très très dur à entendre aujourd'hui.
Tu n'auras pas ma carcasse, je sors vainqueur. Ma prunelle est d'acier, mon riz.
Tu n'auras pas ma carcasse, je sors vainqueur, qui parle.
Donc c'est Marianne Sélis qui est en train de lire un texte de David Diop, qui est un poète des années 50. Donc c'est vraiment essentiellement des poètes des années 50, mais qui lui n'est pas congolais.
Et la troisième source, c'est ?
Donc Nkoli Jean Bofane, qui lui lit des poésies politiques congolaises qui ont été éditées dans les revues des années 50-60.
Des armées affamées de carnage, troublant partout la paix en tout moment. Tous nos aïeux vivaient sous des ravages, sur nos sentiers campaient des régiments. Tous nos paysans couraient loin de leurs cages, craignant le feu et les balles de l'occupant. Jamais Congo n'est domaine des larrons, mais Congo est demeure du Congolais. Jamais Congo n'est domaine des larrons, mais Congo est demeure du Congolais.
Congo, ayo, attendez-les, Yoko Swakimia, Congo, Yoko Swakimia, Simba Zambela Bango, Congo, attendez-les, Congo,
Laurent Courtens, l'histoire de la colonisation avec Tatiana Baum. Donc l'histoire sociale, politique, les blessures de l'histoire sont abordées.
Les blessures et la manière dont elles saignent encore aussi, hein, dont elles se prolongent. Il y a une rémanence avec le travail de Tatiana, le travail de Julien Seldran aussi, qui convoque à travers des formes poétiques abordant les héritages coloniaux, mais aussi la situation des migrants, candidats à l'asile, des sans-papiers. Donc ça vient convoquer cette nuit coloniale qui se prolonge et qui se réactualise aujourd'hui avec les situations de guerre.
Julien Seldran, c'est un sanctuaire, votre installation ?
Un sanctuaire, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est fantomatique parce que les sculptures ont été enlevées de l'espace d'exposition pour être mises dans l'eau, et c'est plutôt le fond de l'eau qui est leur sanctuaire.
Il y a cette pièce tapissée de voiles noires, il y a ces socles inhabités, mais on imagine les fantômes de ces sculptures. Il y a des textes qui sont épinglés au mur, il y a une vidéo également, et il s'agit des cancelled sculptures, c'est-à-dire
Ce sont des sculptures donc, qui sont prévues pour être immergées et pour déployer un pouvoir dans le cours d'eau en annulant quelque chose. C'est pour ça que je les appelle des cancel sculptures, c'est qu'elles peuvent annuler une idée, un concept, une déclaration publique, par exemple.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Là, on entend la vidéo, on entend Aliette Grise qui lit un de ses textes. Elle le lit à une sculpture qui se charge de ce texte.
Elle dit « Ok ». Les tortues l'écoutent. Elles la disent l'élu. Elle vivra sur la plage et les animaux aquatiques.
Donc ces sculptures sont chargées de textes poétiques. Et en fait, vous parlez d'art négatif.
Oui. L'art négatif, en fait, c'est une posture expérimentale, disons.
C'est péjoratif, ça, non ?
Ça dépend ce qu'on considère comme étant négatif. Le positif. En fait, c'est une idée que j'ai eue pendant le Covid, parce que tout le monde était content d'être négatif. Et du coup, en fait, j'ai commencé à réfléchir à fabriquer de l'art comme on fabriquerait de la magie noire ou de la sorcellerie. Il y a cette question, oui, de la charge, par exemple, de l'incantation, de l'imprécation, de la malédiction. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec des poètes qui ont bien voulu me prêter des textes qui allaient servir à charger les sculptures et les diriger vers un but, à canceller, quoi.
Qui on entend là ?
Là, c'est moi qui performe un texte d'Henri Michaud, que je dis au mégaphone à une des sculptures.
Et en fait, ces sculptures chargées de textes, ces textes convoquent l'histoire coloniale, l'immigration également, des problèmes contemporains aussi.
Qui sont les problèmes à laquelle notre société doit faire face, qui sont ceux de l'injustice faite aux migrants, des morts à nos frontières, de la colonialité belge qui n'est pas traitée ici, du sexisme, du classisme, de l'arrivée du fascisme. C'est moi qui ai choisi ces textes parce qu'ils adressent ces questions.
L'union commandée du nord au sud. Lazare, tu dors, dis. Il meurt, Lazare. Il meurt. Et pas de linceul. Pas de Marthe ni de Marie. Je crie, Lazare.
Là, vous performez un texte d'Henri Michaud.
Oui. Le texte de Michaud, Lazare, tu dors, a été écrit pendant la guerre. Et il parle des morts et de la situation pendant la guerre, mais pour moi, il faisait écho à la situation des migrants qui meurent en mer à nos frontières. Et donc, il parle des deux. Il parle de la guerre qu'on nous promet et de la guerre qui est faite aux migrants à nos frontières.
Vos sculptures que vous plongez dans l'eau, l'encre des textes va se diluer, va se perdre, va faire corps avec la mémoire de l'eau.
Alors, il ne va pas se perdre, il va se diffuser. Comme du thé dans une théière, en fait. Il va infuser dans le cours d'eau, et puis le cours d'eau étant connecté à d'autres cours d'eau, il va se répandre par ce biais, puis dans la mer, il va toucher d'autres pays. Et voilà, c'est une idée poétique pour dire que ces textes sont importants et qu'il faut qu'ils se répandent le plus possible.
Et vous les plongez où exactement ?
Pour ce travail-là, en tout cas, je les ai plongés dans la Meuse, parce que en déplaçant un E de Meuse, on écrit musée. Et dans le canal, parce que le canal est un centre d'art.
Ah, vous jouez avec les lettres et les mots.
Bah oui, enfin, ça n'empêche pas d'être un petit peu drôle de faire de l'art conceptuel et symbolique.
Et subversif.
Et subversif.
Beaucoup de gens n'ont pas vu la mer. Tout le monde, embryon dans la myotique. Tout le monde, fantôme dans l'Atlantique. Tout le monde ne sait pas nager. Être dans l'eau rend impuissant ou puissant. Être dans l'eau rend léger ou lourd. Être dans l'eau rend vivant ou mort.
La surprise aussi, vous travaillez sur cette surprise aussi, sur cette irruption de la parole, des mots et de l'invisible de vos sculptures, puisqu'elles ne sont pas présentes.
Oui, j'ai essayé de créer un panel en fait, de situations lors de l'immersion des sculptures. Un panel de thématiques des textes, un panel de façons de lire les textes, un panel aussi de matériaux que j'utilisais. Il y a du béton parce que le béton coule. Il y a de la cire parce que c'est les abeilles qui la font et que un des textes parle de cirer les marches pour faire glisser les puissants. Il y a du silex, il y a de l'argile crue qui va se dissoudre dans l'eau, il y a de l'argile cuite qui, elle, ne va pas se dissoudre dans l'eau. Il y a des textiles, il y a du bois d'azobé qui ne pourrit pas, qui a été gravé. Et dans la gravure, j'ai mis de l'argile crue qui, elle, se dissoudra. J'ai utilisé des choses que j'avais trouvées dans le canal, par exemple des munitions. Il y a du fil barbelé qui revient dans les problématiques des nécropolitiques européennes. Il y a une poétique matériologique aussi.
Égal au poids du volume du liquide déplacé.
Merci Julien Celran.
Je vous en prie, merci à vous.
Et nous retrouvons Laurent Courtens, le commissaire de l'exposition Haute Nuit à l'ISELP, et nous traversons les œuvres vers la lumière. Est-ce que l'approche est cathartique ?
C'est certainement une dimension qui est convoquée que par des actes soit individuels, donc artistiques, soit de la représentation, soit des actes rituels. Quand on songe au travail de Pierre Libart, il y a une manière effectivement d'exorciser un certain nombre de plaies de douleur et de remobiliser les affects vers le vivant.
Pierre Libart ?
Pierre Libart donc, est un photographe belge qui, depuis 2017, construit une série qui s'appelle « Je crois aux nuits ». Et il s'immerge dans des carnavals, enfin des rituels divers, donc qui sont ces rituels de transition entre la nuit hivernale, le domaine de l'informe, du chaos, de la mort, de la vie qui s'éteint, pour essayer de remobiliser les communautés vers la vie et la lumière.
Pierre Libart, je crois aux nuits, cette référence littéraire à Rainer Maria Rilke, un poème donc sorti du recueil La vie monastique. Pourquoi ce texte a une résonance en vous ?
Parce qu'il, sans doute, qu'il nous permet d'apercevoir, ou en tout cas d'occuper un espace qui est hors de ce que la lumière parvient à atteindre, et qu'il est en fait cet espace d'inconsidéré, d'invisibilité, d'immatériel, et pourtant bien là. C'est finalement ce qui me touche, c'est d'accroître en fait notre capacité de conscience, d'embrasser des réalités qui sont impalpables, mais qui pourtant en fait nous constituent, nous environnent et nous donnent beaucoup de puissance.
Conscience, transcendance qui nous permet d'appréhender l'invisible.
L'invisible, mais aussi des parts de nous-mêmes. Je pense qu'on est à l'image de ce qui nous environne, on est une masse assez chaotique, mise ensemble, tenue un peu artificiellement. Je pense qu'on est très fragile, tout ça nous constitue, on est une structure, une peau qui renferme des choses. Et je pense que la question de la nuit est cette question d'une quête, mais aussi d'une audace, d'aller simplement fureter dans un espace qui est encore inconnu de nous-mêmes.
Je crois aux nuits témoigne de nos inspirations les plus profondes, voire même de notre animalité.
Bien sûr.
Et c'est ce qui vous fascine aussi dans les carnavals, dans carnaval en fait.
Oui, carnaval ou en tout cas la question du rite, elle fait advenir quelque chose. Dans n'importe quel rite, il y a une immortalité, un infini, une éternité qui arrive, qui advient. Et je pense que la question du rite, elle réactive cette conviction, en fait, que nous sommes très peu de choses, que nous passons et que nous sommes des êtres vulnérables. Carnaval, en fait, il réactive et surtout il montre. C'est vraiment des rites de représentation. Ça tombe au milieu de nous, ça nous fait vivre des choses, ça nous fait expérimenter des limites, ça nous fait expérimenter un rapport à l'autre, au silence, à l'éternel, aux ancêtres. Je pense que ça vient juste expérimenter des zones de nous-mêmes et des zones de l'espace et des zones de notre mémoire. C'est très vivifiant en fait.
Et en fait, on a cette impression que les personnes deviennent autres lors du rite du carnaval, un peu comme s'il y avait une humanité augmentée.
Oui, humanité augmentée, humanité déplacée, humanité requestionnée. C'est des couches. J'ai l'impression que ces fêtes et les rites mettent en évidence des temps superposés. En même temps la naissance, en même temps le vivant et en même temps la décrépitude et la mort. Il y a quelque chose en fait dans ces fêtes qui tiennent une géologie de nos paradoxes, mais aussi une géologie et une stratification de tout ce que nous sommes, en même temps d'être de sublime, en même temps d'obscénité, de misère, de tragédie. Il y a comme ça une superposition, comme si on regardait à travers en fait plusieurs plaques et on verrait en fait en transparence qui nous sommes. Et je pense que la fête, le rite, dit ça, dit de quoi sommes-nous faits. Ça permet en fait de faire exister la pulsion, de la jouer, de la mimer, d'en rire aussi, de s'en détacher, de l'expérimenter. Je pense que ça nous fait prendre des haillons, des oripeaux, une peau dans laquelle on a parfois envie d'être en fait. Et je pense que ça nous l'a fait vivre le temps d'un instant. Et je pense qu'après en fait on peut enlever cette mue, la laisser de côté, et on sait qu'on va la reprendre l'année prochaine. Donc c'est très jouissif, ouais.
Parlons peut-être un peu de vos photos. Pierre Libart, il y a dans vos photos des parts sombres, bien évidemment, des parts lumineuses. Il y a la blancheur, parfois il y a le noir, il y a le gris. Un corps placé dans une auge recouvert de cendres. Il y a presque une grisaille aveuglante qui ferait voir la nuit, finalement.
Oui,
bah c'est... Une complémentarité.
Oui, ce sont les cendres, hein. La question de la cendre, c'est la question de la poussière, c'est cette constitution finale et en même temps du début, de la fin. Je pratique aussi la céramique, hein, et c'est vrai que la cendre possède en elle aussi toute une identité, et que la cendre portée en fusion redevient quelque chose. Donc la cendre est en même temps cette image même en fait de la disparition et de l'inéluctable, mais en même temps elle a aussi ce potentiel autre. Il y a quelque chose qui gît sous cette cendre et qui est contenu en elle. Cette cendre, elle blanchit, elle nettoie l'argent, elle purifie, elle est fertile. Ça m'étonne pas que ce gris mélange des deux opposés soit finalement en fait leur rencontre et un terreau de fertilité.
Il y a un plaisir à jouer avec les contraires chez vous, hein, l'oxymore, ça vous titille?
Oui. Soudainement, les deux pôles se tiennent enfin côte à côte, réunis et réassemblés, comme une sorte d'ultime embrassade. Il y a quelque chose dans ces fêtes où le corps est mis à l'épreuve, où il y a une sorte de paroxysme et soudainement tout s'effondre. Il y a quelque chose en fait d'une grande vanité. Et je trouve que la vanité aussi, ça met en évidence notre existence ici-bas. Soudainement, son aspiration à plus grand, à plus éternel que soi. Et puis il y a cette désillusion. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui parcourt ces recherches, ces tentatives, et en même temps ce désir d'image, de voir et de vivre, il y a cette envie de tenir, peut-être de me sentir en fait que dans chacune de mes mains, il y a une polarité qui m'écartèle, mais qu'à un certain moment, en fait, elles se réunissent et s'embrassent. Et j'ai vraiment envie de retrouver cet instant de paix à cet endroit où les choses fondamentalement s'entre-déchirent. Et je suis sûr, en fait, que peut-être l'image, l'œuvre, ou même cette envie d'aller chercher ces images, est un endroit de paix et de sérénité.
Ou tout coïncide quelque part, mais vraiment en un point.
En un point, la noce. La noce, exactement. Et c'est notre cœur. Thank you.
Il y a une constante chez pas mal d'artistes, cette traversée de la nuit opérerait une transformation en l'être humain.
Tout à fait. Alors pour parler du travail de Pierre, spécifiquement les enjeux qui se jouent dans les rituels d'hiver ou de carnaval, on va dire pour faire plus simple, c'est précisément la métamorphose, l'initiation, l'expérience des corps, du corps social, qui vise à le remobiliser, à le transformer. L'expérience proposée par Tatiana Baum est une expérience de transformation de la conscience. L'expérience graphique conduite de longtemps par le fusain d'Alès Haïdi est une exploration de sa propre psyché. Et elle est transformatrice pour elle-même comme pour le regardeur. Enfin, moi j'ai toujours l'espoir que les pratiques artistiques globalement ont une puissance de transformation.
Alès Haïdi, vous êtes iranienne. La nuit, qu'est-ce que la nuit pour vous ?
Le noir, l'obscurité et les rêves et les cauchemars. Voilà. Ça, c'est la nuit, mais où ça se passe énormément de choses. Quoi.
Le fusain ?
Oui, c'est le fusain, c'est le noir profond dans lequel il se passe des choses. Il y a des histoires à raconter. Le fusain, il permet d'avoir des nuances de gris, de noir, noir jusqu'au blanc de papier. Et c'est entre ces couches de noir que j'aimerais bien raconter des histoires.
Ce sont des images qui naissent de vos nuits ?
Pas forcément. Ce sont des images qui naissent de mon expérience en tant qu'artiste, surtout de dessin au fusain. Moi, j'insiste sur le côté esthétique, la chose, la matière, enfin le fusain en tant que vraiment la matière première de dessin. Ce que je cherche, c'est surtout le côté technique. Comment on peut aller au-delà de noir que le fusain permet ? Comment on peut vraiment travailler ? Parce que ce qu'on voit dans le dessin, c'est d'abord le noir. Et après, il faut s'approcher et voir les détails à l'intérieur.
Quels que soient les sujets, en fait ?
Les sujets changent par rapport aux années. Il y en a quelques dessins dans cette exposition qui datent un peu, qui font partie d'une période où les dessins étaient plus bavards, donc ils sont plus agités aussi. Voilà, ça parle des nuits agitées ou des nuits tourmentées. Après, il y a les dessins plus récents où la forme est plus présente que les petits détails.
Et quel est le trait rêvé ?
C'est très rêvé, c'est le trait noir qui va au-delà du support de papier pour moi. C'est le trait qui montre aussi la distance que je mets entre artiste et l'iranienne que je suis aussi.
C'est un trait aussi qui va dissoudre tout sujet, toute figure.
Je pense pas, je le vois comme un trait qui limite un cadre et je suis aussi très influencée, je rends hommage aussi à ces artistes de l'art brut, les schizophrènes qui remplissent les feuilles, le support comme si le cadre, le trait de cadre leur permet pas, enfin c'est pas assez pour raconter l'histoire. Et on a toujours une partie d'histoire qui est hors champ. Et là, je pense dans le dessin, j'aimerais bien aussi réfléchir pas seulement la limite du cadre, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur du cadre. Et voilà, c'est un trait qui continue vers l'extérieur.
Il y a des artistes dits outsiders, bruts, qui ont horreur du vide et donc qui remplissent la surface et l'œuvre, au final, devient un monochrome noir. Ce n'est pas non plus votre désir ?
Alors, pas forcément monochrome, parce que je pense que dans les monochromes noirs, il y a des histoires qui se passent, comme chez les artistes outsiders, parce qu'ils ne remplissent pas les feuilles avec juste des traits. Et ils y vont petit à petit, comme s'ils font un trajet. Le trajet est important parce qu'il y a une réflexion derrière, ou pas de réflexion derrière, c'est vraiment inné chez les outsiders. Et ça, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup réfléchi ça. Comment on peut aller au-delà du cadre, hein? Et pour eux, le cadre, c'est vraiment une limite qu'on leur impose. S'il n'y avait pas ce cadre imposé, ils pourraient continuer leur histoire jusqu'à l'infini.
Et chez vous, il y a un retour à la matière, aller-retour à la matière, le fusain.
Oui, c'est ça. Déjà le fusain, j'ai fait obsessionnellement un dessin noir depuis une vingtaine d'années. Le fusain, ça me permet vraiment de faire cette recherche esthétique sur le noir.
Est-ce qu'il y a une énergie du trait qui a une puissance transformatrice chez vous ? Est-ce qu'il y a une ombre qui sera en devenir de lumière ?
L'ombre n'existe pas sans lumière. Mais il y a aussi, oui, il y a le trait agité, bien sûr, qui est entre l'ombre et la lumière aussi.
Et la transformation.
Et la transformation, oui. Il y en a, oui.
Du regard, du faire.
Oui, il y a ça. Je pense que oui, c'est tout ce qui fait ce que je disais tout à l'heure, c'est la durée aussi. Je pense que c'est un voyage. Il y a des hauts, des bas, ça peut durer des mois ou même ça peut se faire dans une semaine. C'est comme les voyages. Et j'aimerais que ça fait exactement le même effet et que ça reste dans le même esprit pour les spectateurs. Que ça sera un voyage et une transformation de, dans le sens de rhizome de Deleuze, mais pas vraiment dans le changement, c'est une continuité, quoi.
Alisa et Di, je vous remercie.
Merci, je vous en prie.
Vous êtes habillée toute en noir aussi.
Toujours.
Oui.
Oui, toujours. Comme je dis, obsessionnellement noir, je suis.
Laurent Courtens, traverser cette exposition. Haute nuit à l'Isselb, c'est parfois être confronté à un sentiment de danger également. On marche sur du verre brisé avec Anan El-Farisi.
Mm-hmm. Oui, il y a un certain nombre d'expériences qui sont convoquées. On invite le visiteur, les visiteuses à éprouver quelque chose physiquement. Moi, je crois que j'ai désiré une forme d'inconfort. Donc, c'est une exposition qui ne cherche pas le confort. Et son titre l'indique, elle cherche à nous placer dans une situation de... une sensation d'instabilité, de danger. Et donc typiquement le sol de verre d'Hanan El-Farisi, oui, propose d'éprouver à la fois l'attirance du verre, ses luisances, ses éclats, avec une dimension même ludique, hein, et puis en même temps d'éprouver la surprise des chocs, des éclats, des bris de verre. Et effectivement, ça engage à un processus de transformation du visiteur par l'expérience. Et c'est vrai pour les grains de café au sol de Tatiana Baume aussi, pour le charbon chez Moussine. Il y a aussi une sorte de dynamique des sols. On va toucher par les pieds quelque chose, et le son, la sonorité.
Anan El-Farisi, votre installation est sonore. On peut la traverser d'ailleurs.
Bien sûr. On va vivre cette expérience.
On marche sur du verre brisé et on continue à briser le verre.
C'est une installation qui s'appelle « Embrassement d'un embrasement ». Ce que je propose dans cette installation, c'est que le regardeur participe. C'est une interaction entre notre corps d'être humain avec des plaques de verre qui sont là entre fragilité, force, et ça se brise avec le poids de notre corps en marchant dessus.
Je vous propose peut-être de se mettre un peu à l'écart et de poursuivre la conversation. Là, on est dans l'auditorium de l'Isselb. Hanan El-Farisi, le verre, danger.
Le verre, force, fragilité, ça peut être aussi un danger, mais surtout ça crée des émotions.
On perçoit un danger en fait parce que le regard porté sur du verre brisé nous blesse les yeux.
Effectivement, en fait, je cherche ici ce côté double, une juxtaposition entre ce reflet de la lumière qui est presque excitant de vouloir s'attarder de marcher sur ce verre, mais aussi ce sentiment de « aïe aïe aïe, ça va briser ».
Alors, vous suscitez une certaine inquiétude. Comment vous inscrivez-vous dans cette thématique de cette exposition « Haute nuit » ? Quelle est cette part d'obscur que vous éclairez ?
Ce que j'essaye, c'est d'amener un peu d'espoir dans notre monde perturbé. Actuellement, c'est très inquiétant ce qu'on vit. Donc, j'essaye d'amener une sorte de transformation, d'inquiétude, mais aussi d'espoir et d'essayer d'embrasser toutes ces inquiétudes et de les dépasser.
Votre approche est double, dites-vous. Il y a ce danger, ce risque et il y a cette réparation.
Effectivement, dans toute ma pratique, ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet qui est en lien avec la destruction et comment est-ce qu'on peut reconstruire à partir de débris que l'être humain laisse derrière lui, les débris qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité, dans notre quotidien, qui est aussi rempli de violence, d'inquiétude. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on transforme toutes ces ruines pour reconstruire une nouvelle idée, une nouvelle histoire humaine et d'humanité tous les jours?
Au Simez, il y a également des dessins inspirés en fait d'images de guerre. À la peinture bleue?
Oui, en fait, je dessine avec de la peinture. Effectivement, l'installation, c'est une sorte d'une grande peinture. C'est du lavis à l'encre, recouvert de plaques en verre. Et sur les murs, il y a toute une série de 25 peintures ou dessins en peinture. Et ces dessins en peinture sont constitués d'images inspirées de la peinture primitive flamande, la représentation de l'enfer et du paradis. D'autres sont inspirés de performances que j'avais faites auparavant ou que j'inspire à faire, et ainsi de la poésie et également quelques archives de guerre, d'images qui ont un double sens, comme le « Tout va bien ». Il y a une des tableaux où c'est marqué « Tout va bien ». Le « Tout va bien » vient d'une image que j'avais trouvée il y a quelques années dans un film de guerre de Vietnam où il y avait un café qui s'appelait « Tout va bien » au milieu de tout un pays qui est brisé, qui est en ruine, qui est en guerre. Comment est-ce qu'on peut trouver ce double sens tout en parlant d'atrocités humaines?
En tant qu'artiste originaire du Maroc, est-il possible, est-il pensable de représenter le paradis, l'enfer?
Je suis née, j'ai grandi au Maroc, je suis aussi belge maintenant. J'essaie de réfléchir en tant qu'artiste comment est-ce qu'on réfléchit l'idée d'être universel. Actuellement, je suis une personne hybride qui se nourrit, qui s'enrichit de plusieurs cultures et qui essaie de créer de belles choses avec...
La culture de l'image.
La culture de l'image, du mot, du sens, de la poésie.
Et du corps dans l'espace également, parce que vous fragilisez le corps lorsqu'il traverse cette installation, lorsqu'il marche, il y a une espèce de maladresse qui s'introduit dans la mécanique du corps.
Effectivement. Je cherche à aussi montrer que nous sommes vulnérables, que l'être humain, autant qu'il peut être très fort, qu'il peut avoir beaucoup de pouvoir de décider pour d'autres gens, il est aussi vulnérable à la fois. Et à travers cette installation, j'invite les gens à avoir cette sensation de double sentiment dans la vulnérabilité et la force à la fois.
Je vous remercie, Anan El-Farissi.
Merci.
Haute nuit, une exposition au long cours qui se poursuivra au-delà même du solstice d'été jusqu'au 27 juin. Architecture avec Lisa de Vichère, la nouvelle BMA, Baumeister, maître architecte de la région de Bruxelles-Capitale. Elle succède à Christiane Borrette, portrait de Lisa de Vichère et découverte du quartier européen. Lisa de Vichère, vous êtes ingénieure, architecte de formation.
En effet, j'ai fait mes études à l'université de Gand. J'ai travaillé en tant qu'architecte dans plusieurs bureaux d'architecture.
25 ans de pratique.
25 ans de pratique, en effet, mais où j'étais toujours un peu à cheval entre la pratique, la culture et l'enseignement. Parce que ça fait aussi 15 ans que j'enseigne à la faculté d'architecture de l'université de Liège.
Et vous menez des recherches autour de la reconversion et du réemploi, c'est-à-dire ?
J'ai mené un atelier, ensemble avec des collègues, j'ai mené un atelier qui s'appelle Atelier Reconversion, où justement on a étudié avec les étudiants la possibilité de reconvertir un bâtiment existant dans une autre fonction. Par exemple, un bâtiment de bureau qui pourrait devenir une école ou des logements ou un équipement.
Et le réemploi ?
Et le réemploi à la fois de la structure du bâtiment, mais aussi des matériaux qui font partie du bâtiment existant ou qui viennent d'un autre chantier et qu'on peut réemployer dans le projet en question.
Et vous avez dirigé la revue A+ Architecture in Belgium pendant près de 10 ans. Vous avez donné une visibilité effectivement à la production belge et bruxelloise.
Tout à fait. J'ai veillé à montrer tout ce qui se produit en Belgique. On est en Belgique très précurseur sur toute une série de thématiques comme le réemploi, mais aussi sur la façon de comment on gère la qualité architecturale et comment on amène en fait la qualité architecturale dans un projet.
Thank you. Vous êtes aussi la co-autrice d'un ouvrage paru il y a presque 10 ans, mais qui fait référence en matière de politique architecturale en Belgique, « Susciter l'architecture, les outils politiques belges pour la qualité architecturale ». Un mot là-dessus. On y reviendra de toute façon.
Oui, c'est un ouvrage qui a été édité par Urbagora dans le cadre de la revue Dérivation, que j'ai faite ensemble avec Pavel Kunis, qui était à l'époque aussi mon collègue à l'Université de Liège. C'est un ouvrage qui cherchait à donner la vue d'ensemble de tout ce qui se fait en Belgique en matière de politique architecturale. Quels sont les instruments, méthodologies pour augmenter la qualité? Et donc, un des instruments était la création d'un Baumeister maître architecte.
Vous avez également fondé le Brussels Architecture Prize en 2021. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de récompense en matière d'architecture à Bruxelles ?
Non, pas à Bruxelles. Il y avait plein de récompenses un peu organisées parfois par des acteurs privés. Il y avait aussi dans différentes provinces, en Flandre, il y avait un prix d'architecture. Mais donc, il n'y avait pas un prix pour Bruxelles. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, Bruxelles, c'est un peu un laboratoire pour l'architecture et je sentais qu'il y avait un énorme potentiel de montrer ce qui se faisait à Bruxelles. Et donc, en 2021, en effet, avec la revue A+, et en collaboration avec Urban, nous avons créé ce prix-là qui devenait donc aussi une vitrine pour toute la production innovante dans la région.
Vous avez une approche sociétale de l'architecture. On vous a présenté comme une actrice culturelle, mais effectivement, ça traduit un engagement.
Oui, en fait, je pense que l'architecture, c'est forcément sociétal, parce qu'en fait, tout le monde est entouré de l'architecture tout le temps. On habite, on travaille, on est dans la rue, on va au théâtre, on va à l'école. Tout l'environnement construit, en fait, nous façonne. Et quand cet environnement construit est bien fait ou pas, ça nous affecte. En fait, la façon comme on va vivre va être influencée par la qualité architecturale et spatiale.
Isa de Vichère, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle d'un ou d'une Baumeister maître architecte ?
Un Baumeister maître architecte veille à la qualité architecturale et spatiale des projets urbains et dans mon cas, donc sur le territoire de Bruxelles-Capitale. Je fais ça d'une position indépendante et ça c'est vraiment très important. Donc je ne fais pas partie d'une administration, je ne suis pas dans l'administration qui délivre les permis ou l'administration qui crée les plans en fait pour la ville et donc je rapporte directement au gouvernement. Donc je suis engagée par le gouvernement et je ne fais ça pas toute seule en fait, j'ai une équipe de 15 personnes qui est là depuis un moment et qui assure aussi de la continuité entre un Baumeister et un autre. Et j'ai un mandat de 5 ans.
Et quel est le pouvoir d'un Baumeister au niveau politique, en fait ? C'est un pouvoir, un contre-pouvoir ?
Il n'y a pas vraiment de pouvoir, mais il y a une influence à condition que je puisse convaincre. Convaincre les acteurs, les maîtres d'ouvrage, les politiciens de amener la ville vers une version plus qualitative. Il faut savoir que ici à Bruxelles, pour tous les projets au-dessus de 5000 m², il faut l'avis du Baumeister. Donc en fait, tous ces projets-là arrivent sur mon bureau et je dois, avec mon équipe, formuler un avis qui fera partie de la demande de permis d'urbanisme. Par contre, cet avis n'est pas contraignant. Donc mon pouvoir est quand même relativement restreint et en même temps je peux avoir un impact qui est très grand parce que justement grâce à cette position indépendante que j'ai, je peux travailler de manière très transversale, je peux aller parler avec tout le monde, avec tous les maîtres d'ouvrage publics, privés, toutes les administrations, tous les politiciens et je peux essayer de les mettre autour de la table pour l'intérêt public.
Isa de Vichère, on pourrait se rendre où ?
On va traverser un peu le quartier européen. On pourrait aller voir le carrefour entre la rue Béliard et la rue d'Arlon ou la rue de Trèves. Deux endroits où on pourrait voir des projets qui sont en cours actuellement.
Là, on est au 59, rue de Namur. On est situé où exactement ici ?
Ici, on est dans le bâtiment de Perspective, donc le service de planification de la région. Et on va aller à pied au quartier européen.
Rue de Namur, bruit de la construction. Vous avez travaillé beaucoup à Bruxelles ?
J'ai travaillé dans plusieurs bureaux à l'étranger et parfois j'étais engagée dans ces bureaux-là justement pour travailler sur un projet en Belgique, comme par exemple le bâtiment Herman Terlink, dans lequel se trouve maintenant l'administration flamande à Tour et Taxi. J'ai travaillé en Suisse et en Autriche, et puis j'ai travaillé à Paris et à Rotterdam.
L'ouvrage paru en 2017 suscitait l'architecture. Il était question de la laideur du pays. La beauté, qu'est-ce que c'est, la qualité de l'architecture, selon Lisa de Vischer?
La qualité est bien plus qu'une question esthétique. Pour moi, c'est plutôt une façon de comment un bâtiment peut s'intégrer dans son environnement et qu'est-ce qu'il redonne à la ville. Comment il peut faire des connexions, créer des endroits qui ont peut-être aussi un intérêt public, comment il peut activer une rue, rajouter un élément dans l'ensemble du quartier.
C'est son implantation dans l'espace urbain, en fait.
C'est une question d'implantation, mais aussi une question de comment ouvrir ou ne pas ouvrir des façades, surtout au rez-de-chaussée. C'est aussi une question de, est-ce que je redonne quelque chose au quartier, par exemple? Je me mets un peu en retrait et je crée un espace public.
C'est la dimension sociale.
C'est la dimension sociale. Et après aussi, une sorte de responsabilité aussi qu'on prend par rapport à la ville existante. Est-ce que j'utilise un bâtiment existant? Est-ce que je vais chercher à réutiliser des matériaux? Est-ce que ce sont des matériaux biosourcés? Tout ça, en fait, amène à la question de la qualité architecturale pour moi.
Et la spécificité de Bruxelles, on disait que c'était sa diversité, que c'était une espèce de melting pot, qu'il y avait un manque de cohérence.
Pour moi, la qualité de Bruxelles, c'est en effet sa diversité et sa complexité, en fait. Époque après époque, on a refait certaines choses. Il y a énormément de styles d'architecture différents, d'échelles différentes qui se côtoient, avec lesquelles, en fait, il faut faire. Non, Bruxelles ne sera jamais une ville homogène et harmonieuse. Et je pense que c'est extrêmement inspirant aussi pour les architectes pour en faire quelque chose. À Bruxelles, on est toujours un peu traumatisé par ce qu'on a appelé la bruxellisation et les grandes ruptures d'échelle qui se sont produites suite à le fait qu'on a rasé certains quartiers pour les remplacer par d'énormes bâtiments. Je pense à Brouckère, par exemple, où on a construit quelques grands bâtiments administratifs. Et en fait, ce sont des quartiers qui, d'une part, montrent les traces et les cicatrices d'un passé. Maintenant, on peut en faire des choses très positives. Quand je pense par exemple à la place de Brouckère, il y a le bâtiment qui s'appelle Multi, qui est un ancien bâtiment de bureau qui a été reconverti de nouveau en bureau, mais devenu une sorte de modèle de réemploi et de la réutilisation des matériaux. Le maître d'ouvrage a travaillé avec Koenix Architects et avec Rotor. On ne refait pas l'erreur de la bruxellisation. On n'a pas dit on va tout raser de nouveau et on va reconstruire la ville comme on pense qu'elle devrait être. Non, plutôt on a fait l'inverse et on a dit en fait on va faire avec ces bâtiments-là qui étaient à l'époque une plaie et avec lesquels en fait on va montrer qu'on peut faire quelque chose de très qualitatif. Il s'agit de ce bâtiment-là sur le coin et puis aussi l'autre à côté, le bâtiment un peu plus brutaliste juste à droite.
Au croisement de la rue Béliard et de la rue de Trèves, sur le coin se trouve un bâtiment qui fait partie du projet City Forward. Ce projet en son entier concerne 310 000 m² de bureaux qui appartenaient à la Commission européenne, vendus à l'État belge, qui a décidé en collaboration avec plusieurs parties, dont le BMA, de penser à une reconversion de ces bâtiments avec comme clé de répartition 70% de bureaux, 25% de logements, dont un quart de logement social et 5% d'équipement, avec l'ambition de rendre le quartier européen plus mixte et de sortir de l'idée de monofonctionnalité de ce quartier et d'introduire plus de logements et d'équipements.
Là, je parle de ce bâtiment qui fait partie du portefeuille City Forward, juste à côté, et un autre bâtiment qui n'en faisait pas partie, mais qui est aussi un immeuble de bureau qui date des années 70 plutôt.
L'autre bâtiment, c'est...
C'est plutôt des années 90. Et donc là, il y a un autre bâtiment à côté qui est un peu plus ancien, avec une façade en éléments préfabriqués en béton.
5 étages.
Il y a 5 étages ici sur la rue, mais derrière, en fait, on monte jusqu'à 8-9 étages. C'est un bâtiment qui va de la rue de Trèves jusqu'à la rue parallèle juste derrière, la rue d'Arlon. bâtiment énorme qui est maintenant un bâtiment qui est en train d'être reconverti à la fois des bureaux mais aussi un centre de congrès et qui va complètement ouvrir le rez-de-chaussée parce qu'en dessous de ce bâtiment il y a encore plusieurs niveaux de parking qui sont obsolètes maintenant parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait autant de voitures qui viennent dans ces quartiers. Et donc, en fait, on cherche aussi à utiliser tous les étages, non seulement ce qui est au-dessus de la terre, mais aussi ce qui est en dessous de la terre.
Retour au 59 de la rue de Namur, dans le bureau de Perspective Brussels. Vous êtes Lisa de Vicher, la nouvelle Baumeister, maître architecte de la région de Bruxelles-Capitale. Vous nous avez parlé de ce projet City Forward, rendre finalement ce quartier européen un peu plus mixte. Est-ce que ce n'est pas une gageure ?
Mais c'est vraiment l'objectif du BMA, de rendre la capitale plus vivable en fait pour les habitants et... Une partie indispensable, c'est la mixité des quartiers. Sur le projet City Forward, nous avons travaillé ensemble avec d'autres instances publiques, avec Perspective, avec Urban, avec Bruxelles Environnement, pour justement réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec ces 21 bâtiments qui sont des bureaux, mais qui sont devenus obsolètes pour la Commission européenne. Très vite, en fait, cette task force s'est mise d'accord sur le fait qu'il faut cette mixité, mais comment on va quantifier cette mixité? Il faut quand même encore des bureaux, on en a encore besoin, mais pas 100%. Donc, on a fait entrer aussi dans le jeu la question des logements et aussi la question des logements abordables. Parce qu'en fait, quand on parle de 25% de logements sur l'ensemble de ce site, dans ces 25%, il y a de nouveau un quart, donc un autre 25% de logements abordables, donc à vocation sociale.
Avec ce projet City Forward, vous poursuivez votre action autour de la reconversion, du réemploi, de la circularité.
Oui, on est convaincu que à Bruxelles, on a très peu de terrain, mais on a beaucoup de bâtiments et on a aussi besoin de nouvelles fonctions, on a besoin de nouveaux logements, de nouveaux équipements et que on peut très bien travailler avec le déjà-là. Une des raisons, évidemment, est écologique. On ne doit pas démolir un bâtiment. Ça veut dire qu'on va éviter qu'il y a des centaines de camions qui vont arriver dans le quartier pour venir chercher les débris du bâtiment et des centaines de camions qui vont apporter les nouveaux matériaux. Et il y a une question de mobilité. Après, il y a aussi une question de déchets qu'on ne produit pas. Il y a aussi toute l'énergie qu'on doit dépenser pour fabriquer les nouveaux matériaux de construction qu'on évite. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu écologique. Il y a aussi une question culturelle. Ces bâtiments sont là, ils font partie de notre mémoire collective. Une série de générations de gens ont vécu dans ces bâtiments, sont peut-être allés à l'école dans ces bâtiments, ont travaillé dans ces bâtiments. On ne démolit pas comme ça. Ce sont des bâtiments aussi qui font partie d'une vue d'un quartier. Puis après, il y a aussi certains bâtiments qui ont des valeurs patrimoniales qu'on veut vraiment conserver. Donc, c'est vraiment très intéressant de travailler avec les reconversions. Et la reconversion amène aussi une autre façon de réfléchir l'architecture, une autre façon de réfléchir l'espace et donne énormément d'opportunités aussi. Parfois, il y a certains gabarits, ils sont là aujourd'hui, si on les démolit, plus jamais on pourrait construire aussi grand, aussi large, avec certaines hauteurs sous plafond ou pas, avec certains volumes. Il y a dans les bâtiments existants un énorme
potentiel, en fait.
Un énorme potentiel spatial et architectural. Ouais.
Le rôle du Baumeister ou de la Baumeister maître architecte, son existence même ne sont pas très connues en dehors du cercle des professionnels. Comment expliquer cette quasi-invisibilité, excusez-moi, de la fonction?
Mais le fait qu'on connaît peut-être mal le travail du Baumeister, c'est aussi parce que, en effet, le travail est parfois très invisible, puisque le travail se fait en amont qu'un bâtiment voit le jour. Une grande partie de la politique architecturale se trouve au moment où on va prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce site-là? Quel programme? Quel gabarit? Comment on va l'ouvrir vers le quartier? Avec quel architecte on va travailler? Tout ça sont des éléments qui sont évidemment pas visibles. Et le BMA a développé des instruments, en fait, pour toute cette période qui se passe en amont d'un permis d'urbanisme et surtout en amont d'une livraison d'un bâtiment. Et donc, ces outils sont, par exemple, le concours d'architecture. Donc, par exemple, on organise des réunions de projet. C'est pas nous qui les organisons, c'est Urban, mais on participe à ces réunions de projet avec les autres acteurs. Et c'est un moment bien en amont d'une demande de permis d'urbanisme où le propriétaire d'un site qui vient avec ses architectes, va solliciter l'avis de toutes les instances concernées, donc Urban, Bruxelles Environnement, le BMA, la Commune, tous en même temps, autour de la même table. Donc en fait, tous ces instruments sont extrêmement importants, mais pour le citoyen lambda, ils sont complètement invisibles. Alors que c'est là où on va vraiment prendre la décision sur le résultat final du bâtiment.
Merci Lisa de Vichère.
Avec plaisir.
Façon de voir est soutenue par la Direction des arts plastiques contemporains et par la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Pascal Goffaut.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio. Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.